Le choix du métier de DRH s'est imposé au fur et à mesure. Quand j'ai réalisé, je suis pluridisciplinaire, je voulais avoir des compétences en tout. J'ai des compétences en économie, parce que je suis docteur en sciences de gestion, j'ai fait un cursus. J'ai des compétences en environnement, j'ai un cursus en sciences, je suis génie du travail et environnement. J'ai un cursus également en droit, le droit du travail, le social. J'aime beaucoup les théories de la motivation. Et je pensais aller vers la responsabilité sociétale parce que j'ai tout. Et j'ai trouvé vraiment, peut-être qu'un jour j'irai d'ailleurs, mais j'ai vraiment trouvé un achèvement dans la fonction de direction des ressources humaines. Parce que vraiment, il faut lier tout. Il faut prêter attention à l'économique, parce que quand même, il faut avoir conscience des chiffres, de la mesure. Eh bien, il faut vraiment prêter attention au social, à l'homme, les théories de l'implication, de la motivation, et puis le droit quand même. Pour faire du droit du travail, ça sert aussi. C'est vrai qu'il y a l'aspect environnement, il y a l'aspect qualité de vie, hein, il y a l'aspect effectivement des produits. Donc j'ai les trois piliers pour avoir cette fonction de DRH. Et je crois vraiment en l'humain, parce que quand on dit l'homme, on a l'impression que c'est restrictif, mais je crois vraiment en l'humain et vraiment que l'on peut faire des choses en termes de performance sociale et qu'on a un rôle dans l'entreprise. Pour moi, c'est important d'avoir un sentiment d'utilité. Je n'ai pas l'impression d'être inutile, j'ai vraiment un sentiment d'être utile, même si d'autres ne le voient pas, parce que justement, quand on fait bien son travail, les autres ne doivent pas le voir. Ça, c'est fondamental.
Pour être un bon DRH, quelle qualité, quel profil?
C'est un peu compliqué parce que moi je suis un DRH atypique. C'est vrai que jamais je n'aurais pensé être DRH quand j'ai commencé mes études. Tout simplement parce que dans mon milieu familial, moi je suis petite fille d'ouvrier. Mon père était fonctionnaire, donc c'est un monde que je ne connaissais pas. En revanche, j'ai toujours eu la volonté de faire des choses pour les autres, soit dans le domaine de la science. Je pensais aux océans, je pensais à aider. Après, ça a été dans, on va dire, dans toute la question de l'emploi, l'organisation du travail, du temps de travail. En tout cas, j'avais un moteur qui était un sentiment d'utilité. Je voulais un travail qui soit utile aux autres. En même temps, il faut avoir du caractère, parce que quand on est dans des fonctions, par exemple ressources humaines, ce sont des fonctions où on a des risques. C'est-à-dire qu'une personne qui a peur du risque, eh bien, ne peut pas faire notre fonction, parce que c'est ni blanc ni noir, il faut faire des choix. Notre vie est faite de choix. On a des lois qui s'appliquent, parfois des lois qui laissent, comme on le sait, des moments, un champ très vague où il faut effectivement trancher. Donc c'est un métier où on prend des décisions tout le temps. C'est parfois très compliqué parce qu'on a l'humain qui arrive, même si on, par exemple, dans un poste de DRH, on suit des politiques, des stratégies, on accompagne pour des accords, on a quand même à gérer l'humain. La gestion des cas individuels peut amener à des cas de conscience. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont des vies très difficiles. Mais même si nous accompagnons les individus, nous devons avoir un souci du collectif. Donc il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire, et il faut avoir des belles compétences de base. C'est-à-dire qu'en ressources humaines, on ne peut pas avoir des compétences dans tous les domaines. Moi, je garde toujours cette phrase, d'ailleurs, je l'ai dite hier, hein, c'est l'anniversaire de la mort de John Fitzgerald Kennedy aujourd'hui, ça fait 50 ans. Il disait, l'art de la réussite, c'est de savoir s'entourer des meilleurs. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il fallait savoir déléguer. La délégation n'empêche pas le contrôle, mais il faut être entouré d'une équipe solide sur des fondamentaux. Parce que notre métier nécessite dans le monde de l'entreprise, où déjà effectivement tout ce qui est la base, la rémunération, j'ai des personnes très compétentes en paye, c'est-à-dire pour assurer, il faut vraiment qu'on puisse compter sur des collaborateurs pour pouvoir construire. Parce que nous sommes ici pour aider toutes les business units à faire leur activité. Pour cela, il faut que les personnes se sentent bien, il faut que le cadre soit un cadre rigoureux et en même temps permettant la mobilisation et l'implication du personnel. Donc c'est un rôle, on va dire, on est une courroie et à la limite, quand nous faisons bien notre métier, on ne doit pas parler de nous. Donc c'est vrai que parfois c'est un peu le paradoxe de nos fonctions. C'est-à-dire un bon DRH, on n'en parle pas. C'est-à-dire les accords se passent bien, les relations sociales, le climat social est bon. Alors tout n'est jamais parfait, parce que celui qui veut la perfection, il vient pas aux ressources humaines. Hein, parce qu'il peut toujours y avoir un effet de go quelque part. Mais c'est vrai qu'on est là pour faire en sorte que tout se passe bien.
Justement, ils n'ont pas forcément toujours une belle image, les DRH, donc c'est une situation un peu difficile. Parce qu'on dit souvent qu'ils sont à la merci des actionnaires, des dirigeants. Comment se positionner, comment arriver à bien exercer son métier? Parce qu'on voit beaucoup qui sont en burn-out, qui ont du mal à assumer cette fonction-là. Comment ils le vivent réellement? Parce que le choix de ce métier est idyllique. Ce sont toutes des personnes qui aiment l'humain, qui ont envie de faire des choses, et puis après se retrouvent dans des situations un peu entre le marteau et l'enclume. Comment se positionner là par rapport au contexte général? Vraiment, quelles ressources puiser quand on veut vraiment exercer son métier avec son cœur?
Alors, déjà, je pense que être DRH, c'est pas plus compliqué que d'autres directeurs. En revanche, ça nécessite pour tout humain d'avoir un équilibre. Hier, quand on faisait, quand les jeunes de nos quartiers ont des talents, HEC Entrepreneurs, ont fait cette conférence, c'était pour moi entreprendre, c'est. Et j'ai fait un parallèle avec ce que je vis aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, il y a trois choses fondamentales, trois moteurs qui m'animent, c'est prendre du plaisir. Parce qu'il faut prendre du plaisir. Je suis jamais venue travailler la peur au ventre. Je ne sais pas ce que c'est. Je peux être fatiguée, en revanche. Ça, c'est autre chose. Donc, ça, prendre du plaisir est important. Il faut avoir trois piliers solides. Je me rappelle toujours, quand j'ai commencé très jeune, j'ai tout de suite été dans le monde des associations. Ça s'appelait Hommes et Ingénierie. J'étais avec des grands DRH. Et j'ai vu ce qu'était un DRH au bout du rouleau, c'est-à-dire le DRH de la cinquantaine, divorcé, se retrouvant sans travail du jour au lendemain et qui avait tout perdu. Et moi, ça a toujours été important d'avoir mes trois piliers dans ma vie. J'aime mon travail, j'aime ma famille et j'aime mes engagements dans le domaine sociétal. Je ne pourrais pas vivre sans ces trois piliers. Tout miser sur un seul pilier, pour moi, est voué à l'échec. Donc je fais en sorte d'avoir toujours mes piliers qui sont présents. C'est vraiment fondamental. Après, c'est toujours le principe. Dans l'entreprise, on donne et il faut savoir qu'il faut donner sans attendre de recevoir. Ça, c'est un principe pour tout le monde et pas que les DRH. Donc, il faut avoir une très grande stabilité mentale. Il y avait un article sur les bipolaires. Déjà, les bipolaires, dans notre monde, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il faut déjà avoir une grande confiance en soi. Parce que si on n'a pas confiance en soi pour l'équipe, cela ne marchera pas. Moi, j'ai dit souvent que dans le monde de l'entreprise, on a un Jiminy Cricket et il faut faire preuve de courage. Il y a l'ancien DRH de BPCE qui a sorti un ouvrage. Et moi, j'avoue que j'ai jamais eu de cas de conscience. C'est-à-dire, j'ai toujours dit ce que je pensais. C'est le directeur général qui tranche. Je donne différents scénarios. Mais je ne suis jamais allée dans une entreprise qui était en contradiction avec mes valeurs. Ça, je crois que c'est un point important, quel que soit l'endroit. Même pour gagner plus d'argent, je n'irai pas dans un endroit où je ne suis pas en accord avec les valeurs que j'ai. Ici, on peut être en désaccord, ce n'est pas un problème, mais je n'ai jamais rien fait à l'encontre de mes valeurs. Et là, je veux dire par là, après c'est un choix. Il y a des entreprises dans lesquelles je pourrais travailler, il y en a d'autres dans lesquelles je ne pourrais pas. Donc aussi, il faut faire les choix qui nous semblent bons. Je crois que ça, et quelle que soit l'activité que l'on mène, mais il faut avoir une bonne base. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut déjà avoir un métier. Moi, il se trouve que je suis pluridisciplinaire, donc ça m'ouvre des perspectives différentes. Mais il faut être posé et être reconnu. Je pense qu'on ne peut pas faire ce métier si on n'est pas reconnu pour ses compétences et puis également pour son autorité, parce qu'on a une autorité. Je me rappelle, c'était des cours que je faisais aux jeunes, hein, entre l'autorité de la compétence, autorité charismatique. Il faut avoir de l'autorité pour avoir du poids, c'est-à-dire que quand on parle, on doit être entendu. Après, c'est comme dans le monde de l'entreprise. Il y a des personnes qui sont des bonnes personnes, mais qui ne sont pas à la bonne place. Et dans le monde des DRH, comme les autres mondes, il y a des bonnes personnes qui sont peut-être pas forcément à la bonne place. Et puis, il faut voir aussi qu'on évolue au travers de la vie. Ce que l'on peut faire aujourd'hui, on peut peut-être ne pas le faire demain. Donc, il faut savoir aussi s'adapter et accepter. Comme nos collaborateurs, tout le monde peut avoir un moment son seuil de Peter. Il faut savoir accepter les évolutions. Ne pas rester dans un travail quand il n'est contrainte. Je me souviens, quand je faisais du conseil, j'étais amenée à côtoyer des DRH. Et je me rappelle d'un DRH qui était vraiment éteint. Et il m'a dit, il avait un directeur général qui était quelqu'un qui m'appréciait, parce que j'ai du caractère, je suis une femme de caractère. Et lui, vraiment, j'avais mal au cœur pour lui quand on était en réunion, vraiment mal au cœur. Et il m'a dit, j'ai eu le choix de me démestre et de me soumettre. Et moi qui croisais des ectoplasmes dans ma vie, pas simplement dans la fonction des ressources humaines, je me suis dit, il ne faut jamais que le métier soit contrainte, quelle que soit son activité. Parce que parfois, on garde des personnes dans une place parce qu'on dit qu'ils ont le confort. Et puis finalement, ça les détruit de l'intérieur. Et j'ai eu beaucoup de leçons. C'est-à-dire que dans le monde du conseil, en 5 ans, j'ai vécu plusieurs vies. Et j'ai maturé comme je n'aurais jamais maturé dans aucune autre activité. Parce que quand on est jeune, finalement, qu'on a 30 ans, qu'on se retrouve comme ça, aux prises, avec des milieux très différents, je passais de l'ingénierie aux abattoirs, je passais du monde des casinos de jeux aux associations d'aide à domicile. J'ai beaucoup appris, j'ai côtoyé des personnes très différentes, j'ai vu ce qu'était l'amour du métier, j'ai vu ce qu'étaient des vrais professionnels. Et donc je me suis enrichie de cette expérience. C'était incroyable. Mais bon, donc c'est particulier. Mais c'est une belle vie.
Pour être un poste de DRH, il faut un peu avoir vécu ce qu'il en ressent de tout ça. C'est avoir un peu une bonne expérience derrière pour pouvoir vraiment appliquer. Donc j'aimerais que tu reviennes un peu sur ce point et puis que tu me dises comment évolue la fonction.
Alors, avoir de l'expérience, c'est fondamental. Je veux dire, par là, même si je ne maîtrise pas, et d'ailleurs, à une époque, je maîtrisais beaucoup mieux la législation sociale qu'aujourd'hui, c'est quand même avoir vécu différents cas de figure. C'est-à-dire que dans ma vie de conseil, en 5 ans, j'ai vécu des choses que je n'aurais jamais vécues si j'étais restée à la même place. C'est-à-dire que je n'ai jamais été dans une fonction RH, j'ai tout de suite été à la tête de fonction RH. Parce que j'avais plusieurs vies, parce que j'ai travaillé avec des personnes très différentes, dans des collectivités aussi locales, dans des conventions collectives différentes. J'ai touché du doigt tous les milieux. Et surtout, j'ai pu déterminer dans quel milieu je m'étais sentie bien. Je me reconnaissais. C'est vrai que la prestation intellectuelle était un milieu dans lequel, même si j'étais à l'aise dans les boulangeries industrielles, dans les abattoirs, je me sentais bien et je savais que je pouvais contribuer. C'est-à-dire que je suis allée dans un domaine où je me reconnaissais. Ça, c'est un point fondamental. Et j'ai vécu des choses très différentes, puisque j'ai travaillé à la fois dans le public, aujourd'hui je suis dans le privé, et je connais tous les fonctionnements. Et j'aime ça. J'aime le jeu intellectuel. Je trouve que j'ai l'intelligence de la situation quand je ne sais pas. En tout cas, je sais que j'ai besoin d'être rassurée. Mais j'ai surtout un très bon sens. Alors parfois, c'est vrai, la loi n'est pas toujours dans le bon sens. Mais en tout cas, je sais quand j'ai besoin de valider certains points. C'est ça, on ne peut pas être omniscient et tout savoir. En revanche, il faut avoir l'intelligence de se tourner vers les personnes compétentes pour épauler. Voilà. Et maintenant, la fonction de DRH, si je suis venue ici, c'était dans... Voilà, il y avait 2 choses qui me plaisaient, plutôt 3. Le métier, AFNOR, pour moi, c'était vraiment... Je travaillais en face, parce qu'à la haute autorité, donc j'étais déjà dans une association, je connaissais des membres de l'AFNOR. J'aimais l'AFNOR. Le positionnement. Être directrice des ressources humaines d'un groupe et dépendre du directeur général, c'était indispensable. J'ai vécu une autre situation, je dépendais du secrétaire général, et ça j'avais dit plus jamais. Plus jamais parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a un filtre et que les politiques ne passent pas. Et donc il y avait des choses avec lesquelles j'étais pas d'accord, parce que c'est sûr qu'on sait pas son métier. Et c'est vrai que pour porter l'humain, et ça dans le groupe AFNOR c'était un point important, le poste de directeur des ressources humaines était positionné juste sous le directeur général, au même titre que les autres fonctions, et était membre du comité exécutif. Ça voulait dire que pendant 3 ans, j'avais eu un filtre et je n'allais plus avoir de filtre. Et c'était, je serais même venue pour moins d'argent. C'est-à-dire que, voilà, je serais venue pour le même salaire, rien que pour avoir cette liberté de pouvoir mener les politiques et pouvoir me faire entendre. Et en plus, ce directeur général, je n'aurais jamais pu travailler avec quelqu'un dans lequel je n'aurais pas eu confiance. Je trouve que l'humain est important, même si on se voit qu'à des moments précis. Je sais qu'il a confiance en moi et moi j'ai confiance en lui. Et ça c'est un point fondamental. Même pour de l'argent, je pourrais partir, mais si je n'aimais pas le groupe, si je ne m'entendais pas, si je n'avais pas un positionnement au comité exécutif, je ne pourrais pas. Voilà. Donc c'est... Alors bien sûr, il y a des moments qui ne sont pas idylliques, mais quand on est dans un comité exécutif, c'est normal, parce qu'on peut ne pas toujours être tous d'accord les uns les autres. Mais en tout cas, on a une chose, c'est l'intérêt général que nous avons. Donc je vois beaucoup, effectivement, de directeurs de ressources humaines qui sont dans les membres des comités exécutifs, et là, je me reconnais. Je ne vois pas comment un groupe, et notamment de prestations intellectuelles, ne peut pas avoir son DRH au comité exécutif. Et il y a mon mari qui regarde toujours le point, mon abonné au point, et il regarde toujours l'entreprise qui est mise à l'honneur. Eh bien, la plupart du temps, le DRH n'est pas dans le tableau, n'est pas membre du comité exécutif. Et il y a un point pour lequel, parce que je suis quand même universitaire à la base, les études l'ont prouvé, il y a de nombreuses études, notamment américaines, qui prouvent qu'il n'y a pas de performance économique sur le long terme sans performance sociale. Et la personne qui peut être la plus à même d'avoir cette mission d'épauler, c'est le directeur des ressources humaines, à condition qu'il soit formé, qu'il ait les épaules assez solides et qu'il soit dans la prospective. Moi, j'ai toujours besoin d'apprendre. Et c'est pour ça que je suis dans des commissions de normalisation. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec le Québec pour être en avant-garde. On a un rôle majeur. Mais ce rôle majeur, on ne peut l'avoir que si on a un positionnement qui soit juste. Et effectivement, si on a la formation associée. Il est hors de question, c'est un petit peu quand on parle des femmes au comité exécutif, nous on est la moitié de femmes, et là il ne le sait pas, mais je remercie toujours les sœurs de mon directeur général, parce que je pense qu'il a été dans une famille où on avait une égalité déjà, parce que c'est dans ses moteurs, quand on a l'habitude de travailler avec des femmes, ça paraît légitime de travailler avec des femmes. Donc c'est, ça c'est un point important. C'est surtout qu'on, nous je vois, on travaille. J'avoue que je dis toujours que nous sommes comme des abeilles. C'est vrai que la mission, on y tient. Mais surtout, c'est, pour moi, il n'y a pas de différence homme-femme. C'était question de caractère. On est des êtres de caractère et ça c'est bien. C'est vrai que je m'entends avec mes collègues hommes et femmes, mais c'est important. En tout cas, il faut toujours se former. Moi j'ai toujours une soif d'apprendre, d'avoir cette façon de guider. Je sais que parfois c'est difficile pour les autres de me suivre, parce que je suis une DRH qui a plein de projets, mais être arrivée ici pour faire la fusion d'AFAC et d'AFNOR, qui sont devenus le groupe AFNOR, ça m'a obligée à renégocier, à faire le socle de base, ce que j'appelle le socle légal, la convention collective, l'ensemble des accords. Et puis après, on est monté. On est monté en développement RH. Maintenant, on a un logiciel, on a un référentiel de compétences commun, on a les entretiens. Moi, je travaille sur la santé, les contrats de génération, et je peux compter sur mes équipes pour m'accompagner. Mais je peux être aussi un DRH un peu fatigant pour ça, parce que je suis le DRH qui a toujours des projets. Moi, il me faut des projets pour avancer. Je suis un DRH architecte, et donc j'ai mes marottes, mais auxquelles je crois, parce que aujourd'hui, quand je travaille avec mes collègues, c'est-à-dire que moi, j'ai plutôt une vision monde de ce qui se passe, travaillant local, même si on a un groupe avec des filiales au niveau monde. Mais néanmoins, je suis dans la prospective. Au Québec, on travaille depuis 2008 sur l'entreprise en santé. Donc moi, depuis 2010, je suis à la tête du comité santé et mieux-être. Je vois mes collègues en Allemagne, on travaille jusqu'à 67 ans. Et je sais que demain, nous travaillerons jusqu'à 67 ans. Ce n'est pas une question de parité, c'est une question, on va dire, de réalité. J'étais administratrice dans une caisse de retraite. On a travaillé, les caisses sont vides. Puisque quand on a eu le basculement à 60 ans, c'est là où on a eu l'allongement de la durée de vie. Donc c'est une réalité. Moi qui étais choquée quand j'allais aux États-Unis il y a quelques années, de voir des personnes qui auraient pu être mes grands-parents travailler, eh bien c'est une réalité. Nous allons allonger notre temps et nous avons là un rôle important à jouer, les DRH. Ça veut dire qu'il va falloir être en bonne santé. Et ça, c'est notre pari. Quand je vois Mme Marouin, qui est la Première ministre du Québec, qui dit « Le Québec, notre ambition, c'est d'être en bonne santé ». Et ça, c'est vrai. Être en bonne santé, on a plus de 12% du PIB pour la santé. Nous, les entreprises, nous pouvons y contribuer. Parce que nous passons plus de temps notre vie au travail qu'avec en dehors. Et nous sommes un des moteurs. Donc, je crois beaucoup à notre utilité sociale, mais je crois qu'il faut aller sur des champs. Et donc, j'ai beaucoup de collègues des RH qui travaillent sur le sujet et nous devons montrer l'exemple. Et c'est un travail de chaque jour, parce que c'est pas évident de montrer le lien entre un système de management de la santé globale et la performance sociale, mais on y arrivera. C'est un travail de toujours. Si nous voulons mériter notre poste, nous devons être là, nous devons être présents pour travailler sur les études d'impact des décisions politiques qui sont mises en place. Donc beaucoup d'activités. Alors aujourd'hui, on a quand même, nous, au niveau de la fonction des ressources humaines, un nouvel enjeu, puisque les Américains, alors c'est l'ANSI, hein, c'est l'équivalent d'AFNOR, a porté un sujet sur la gestion des ressources humaines. C'est une première mondiale. Depuis 2011, on a un TCC, c'est un Technical Committee à l'ISO, qui travaille, s'appelle ISO-TC 260, qui travaille sur la gestion des ressources humaines. C'est-à-dire qu'on travaille au niveau mondial sur ce que seront les ressources humaines demain. Alors, il ne faut pas faire d'angélisme, hein. Les Américains ont une préoccupation de pouvoir adapter des politiques RH dans le monde entier, notamment au travers des multinationales. Donc c'était leur ambition. Mais il faut savoir que travailler au niveau international est fondamental, parce que si on n'est pas dans la discussion qui est liée au consensus, eh bien les normes, même si la majorité des normes sont d'application volontaire, elles deviennent toujours des standards. Ça a été la même chose au niveau comptable, où pendant longtemps les personnes se sont dit « ce sont des standards anglo-saxons, ils ne viendront jamais ». C'est une utopie, hein, les standards anglo-saxons sont arrivés. Donc on a aujourd'hui un rôle à jouer. Donc on a créé un comité miroir en France. Aujourd'hui, il y a trop peu de DRH. Je pense qu'il n'y a pas de conscience, parce que nous sommes une population jeune avec la normalisation. Moi, j'ai l'opportunité, en étant AFNOR, d'avoir suivi et d'avoir participé notamment à la commission miroir ISO 26000 de responsabilité sociétale. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas cette culture. Aujourd'hui, on vit trop en local. Or, les politiques RH viendront un jour de l'international. Alors, mes collègues DRH de filiale anglo-saxonne le savent, puisqu'ils ont tout qui vient de l'international, mais les autres n'ont pas encore cette conscience. Alors, on avait effectivement différentes normes et projets normatifs qui nous ont été apportés. Pour nous, la France, on a porté un sujet qui a eu un vote positif. Quand j'ai dit porter un sujet sur la gouvernance humaine, et dans la gouvernance humaine, il y a une chose fondamentale qui est à la fois la place des DRH au sein des comités exécutifs et surtout la place des ressources humaines au niveau, on va dire, des sujets traités au niveau des conseils d'administration. Pour avoir été 2 ans administratrice dans une caisse de retraite, je n'ai pas vu une seule fois le DRH. Tout simplement parce qu'il y avait pourtant des fusions, acquisitions. Nous avions les chiffres, combien de salariés, combien ça coûte. Or, l'humain est fondamental. Nous, ce que nous demandons au travers cette norme qui a été acceptée, les travaux que nous faisons, c'est d'avoir des études d'impact. La direction générale, les conseils d'administration décideront toujours, mais il faut qu'ils puissent décider en connaissance de cause. Aujourd'hui, ce qui se passe trop souvent au sein des entreprises, c'est que des décisions sont faites, des décisions qui sont liées à des sujets économiques, soit des problématiques autres financières, soit des problématiques de rentabilité qu'on peut partager ou pas, mais il n'y a jamais l'impact social qui est vu. Et l'impact social est très clair. Nous, on le voit au niveau de certains collègues, où il y a eu, bien entendu, soit des coupures dans le personnel, mais sans avoir le souci de savoir si on gardait les compétences pour demain. C'est-à-dire avec une vision vraiment trop short terme. Or, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre. Et il faut que les conseils d'administration, comme les directions générales, sache en prenant des décisions quel va être l'impact. Parce que parfois, ça peut être un impact plus coûteux. Et il en va également, on va dire, même des actionnaires. Moi, j'avoue que j'ai peut-être une position particulière sur les actionnaires. Quand j'étais étudiant, je faisais partie de clubs d'investissement. Et j'ai gagné de l'argent dans des clubs d'investissement, alors que pour moi, l'entreprise ne s'enrichissait pas. Et j'ai, voilà, donc ça m'a comment dirais-je, vacciné à vie pour ça. Je trouve qu'un actionnaire, déjà, on ne doit pas jouer, parce que pour moi, on ne doit pas jouer pour gagner de l'argent. Ce n'est pas une façon honnête de gagner de l'argent. On doit gagner de l'argent quand on investit dans une entreprise et que ça permet à l'entreprise de se développer. Eh bien, l'humain, c'est un capital. Penser que l'humain est une variable d'ajustement, moi, je ne le comprends pas. Parce qu'effectivement, l'humain doit s'enrichir. Alors en revanche, on peut être amené à prendre des décisions. Et ça, c'est normal. Parce que des décisions, bien parfois, il y a des activités qui ont besoin de prendre des décisions. Soit de faire des plans de sauvegarde de l'emploi, parce qu'il y a nécessité. Mais il faut que cette nécessité soit bien comprise et expliquée. Et pour qu'elle soit comprise et expliquée, il faut bien montrer l'impact social. Et on se rend compte que dans les entreprises où cela fonctionne, c'est parce qu'on a expliqué les raisons pour lesquelles on était amené à prendre des décisions difficiles. Les personnes sont assez mûres. On parle toujours, il faut parler d'adulte à adulte. Il ne faut pas infantiliser les personnes. Il faut aussi qu'on ait une culture économique suffisante. Et bien dans cette norme, on dit... Quand les décisions doivent être prises, les décisions sont toujours prises par les directions générales, par les conseils d'administration, mais il faut que ce soit des décisions éclairées. Et nous, on a notre rôle à jouer. C'est-à-dire que nous, au sein des fonctions de ressources humaines, il faut aussi qu'on soit plus on va dire, dans la mesure de ce que nous faisons, c'est-à-dire dans le suivi des tableaux de bord. Il ne faut pas penser que nous sommes là que du sensitisme, de la psychologie, de la sociologie de comptoir, mais pas du tout. Il y a des choses très claires qui existent, on suit les compétences, on peut être amené à collaborer pour les organisations. Et moi, je le vois, même aujourd'hui, je veux dire, on a souvent des changements d'organisation, il faut vraiment être en amont, et on a beau bien travailler ensemble, et bien parfois, il y a des choses qui manquent. On pourrait encore mieux travailler. Et donc, ce sont des nécessités dans l'intérêt collectif, dans l'intérêt de la performance sociale. On fait des baromètres sociaux et on s'améliore, mais c'est ce qu'on appelle la stratégie des petits pas. Nous devons mieux apprendre encore à travailler. Et je dis souvent, et on le voit aujourd'hui, que ce soit avec l'ISO, toutes ces normes, les Américains, je pense que dans les premiers référentiels normatifs qui vont passer, on a la norme... c'est une norme américaine qui s'appelle Cosper-Hyde, le coût du recrutement. Et ce qui est quand même particulier, c'est que ma fille qui est dans les ressources humaines a fait son mémoire à Société Générale sur le coût du recrutement des stagiaires. Donc c'est une réalité déjà dans certains groupes. Il ne faut pas se voiler la face. Moi, j'ai toujours trouvé que je devais montrer la création de valeur de ma fonction. Je trouve que quand les business units doivent faire des efforts, nous aussi au niveau des fonctions support, ça paraît différent, c'est peut-être parce que je suis docteur en sciences de gestion, mais je trouve que pour légitimer notre rôle, il faut légitimer nos actions et notre contribution. Moi, je veux montrer ma contribution. Je n'ai pas de honte à dire que nous sommes 1,7% du personnel, mais nous faisons tout, nous faisons la paye. Je trouve qu'il n'y a pas de progrès sans mesure et je suis dans la bonne maison pour le montrer. Donc, montrons notre contribution de valeur, montrons ce que nous sommes capables de faire, mais faisons en sorte aussi qu'au plus haut niveau, que ce soit au niveau des comités exécutifs, il y ait les bonnes personnes, même si certains doivent se former pour y être. Et montrons également qu'au niveau des conseils d'administration, il n'y a pas que le comité de rémunération. Je veux dire, par là, gagner de l'argent si on contribue, c'est légitime. Une entreprise doit gagner de l'argent pour vivre, hein, donc ce n'est pas un problème. Mais montrons qu'il y a autre chose. Montrons que l'humain est important quand on fait des fusions-absorptions. C'est parfois difficile, et même moi, parce que je me retrouve avec des rapprochements à devoir prendre des positions et à accompagner. Mais nous devons être présents au plus haut niveau. Dans les autres sujets en ce moment normatifs, il y a le management durable également, qui est porté par les Néerlandais. Et puis on a d'autres sujets qui ont émergé, notamment sur le recrutement, parce qu'on avait dit aux Américains que c'était trop short, trop courte vision du recrutement, d'avoir que le coût du recrutement. Donc c'est le professeur Sandy Miles, parce qu'en plus on se fait beaucoup d'amis, parce que la normalisation c'est beaucoup de lobbying. Donc il faut être présent, nous les Français aussi. On s'entend vraiment très bien avec les Allemands, hein, et on crée des liens entre nous. On augmente de compétences parce que je trouve que nous, DRH, il faut que nous arrivions à toujours développer notre employabilité. C'est important. Il y a également un autre projet de norme qui est sur Workplace Planning, qui est l'organisation du travail, qui est une norme australienne qui va sortir. Et c'est mon amie Julie Sloan qui s'en occupe et qui va porter le sujet. Donc on a beaucoup de femmes et pas que des hommes au niveau de la normalisation, parce que parfois on se rend compte que certains pays ont tendance à envoyer des hommes. C'est d'ailleurs un point qui est le paradoxe de notre fonction, qui est une fonction très féminine finalement dans l'entreprise, et qu'au niveau des DRH, on a aussi beaucoup d'hommes. C'est-à-dire on a la proportion inversée par rapport à nos fonctions. Mais bon, donc c'est excessivement important. Le futur pour nous, il ne faut pas s'en cacher, les anglo-saxons montraient. Alors, c'est vrai que moi, je fais toujours, et c'est un point important dans notre métier, faire la différence personne-fonction. Je suis certes DRH du groupe AFNOR, mais je suis DRH et une professionnelle de ma fonction avant. Et les anglo-saxons, et je vois certains collègues qui travaillaient à l'international, qui ont changé de boîte et qui se sont trouvés confrontés à un point important, c'est qu'ils n'avaient pas les certifications RH. Dans le monde anglo-saxon, on a de la certification de compétences. Certification de compétences que nous faisons déjà, nous, au sein du groupe AFNOR, à AFNOR Certification pour certaines fonctions. La certification de compétences, eh bien, c'est une certification qui valide notre niveau compétence pour 3 ans avec des renouvellements, un petit peu comme la certification ISO pour les entreprises. Parce qu'il faut apprendre toujours au cours de notre vie. Et c'est vrai que dans d'autres pays, les ressources humaines, c'est un ordre. Il y a l'ordre des ressources humaines. Par exemple, si on prend le cas du Québec, eh bien, au Québec, dans l'ordre des ressources humaines, ils ont mis en place le fait qu'il fallait travailler sur l'entreprise en santé. Qu'est-ce qu'était le management de la santé dans l'entreprise? C'est une obligation tous les 3 ans que la fonction RH est une fonction. Un petit peu ce qu'on fait l'ordre des avocats, en les obligeant effectivement à suivre des formations, ou l'ordre des médecins. C'est important, tout au cours de sa vie, de développer son employabilité. Parce que souvent, certaines politiques ne sont pas mises en œuvre parce que les personnes ne la maîtrisent pas. Dans toutes les fonctions, soit ressources humaines ou autres, on le voit encore plus au niveau informatique, parce qu'au niveau informatique, s'ils n'arrivent pas à maintenir leurs compétences, eh bien, on est dépassé, ça coûte beaucoup plus cher, il faut externaliser des fonctions, etc. Donc il faut qu'on se développe. Et ça, c'est l'avenir, qu'on le veuille ou non. Et ce n'est pas une question de business, ce n'est pas parce que je suis AFNOR. Moi, je suis prête à me faire certifier aux États-Unis pour montrer qu'on se doit d'être exemplaire et d'être toujours au top dans nos fonctions. Alors bien sûr, ce n'est pas valable parce qu'au niveau international, bien sûr, mais au niveau français, on a tellement de particularités. Mais c'est important de le faire dans nos fonctions, de toujours apprendre, de ne pas se scléroser. Et ça, c'est ce que je reproche. Et c'est vrai qu'on a des accords qui peuvent être faits pour échanger nos collaborateurs. Moi, je trouve que la richesse que j'ai, c'est d'avoir changé d'entreprise. C'est la première fois que je reste aussi longtemps dans une entreprise. C'est vrai que ça va faire 8 ans. 8 ans que je suis là, mais en 8 ans, mon métier a énormément changé. Vraiment, les premières années, c'est difficile quand on fait une fusion. Donc, on est vraiment vers l'interne. Et maintenant, je suis vers l'externe. J'ai beaucoup aimé, quand on a fait une de nos réunions, parce que je fais partie de la délégation française pour cette norme ISO TC 260. On était à Melbourne il y a 2 ans, on était au Congrès international des ressources humaines. Et là, j'ai rencontré des speakers au niveau international incroyables, et notamment Dave Ulrich. Et je me suis rendu compte que j'étais dans ce qu'appelait Dave Ulrich le DRH d'aujourd'hui. Quand on dit à un DRH, qu'est-ce que vous faites? Moi, je dis tout de suite, eh bien, l'AFNOR, nous avons 4 grands métiers, la normalisation, la certification, l'édition et la formation. Nous sommes au service des organisations, entreprises privées publiques. Et là, il disait que c'est le DRH d'aujourd'hui. Quand un DRH lui dit, eh bien voilà, j'ai la paie, l'administration du personnel, le développement RH, etc., il fait là, c'est le DRH d'hier. Parce que le DRH d'aujourd'hui doit comprendre qu'il est dans une organisation et qu'il est contributeur au même niveau que les autres. Quand je suis en réunion, que ce soit au CERF Miroménil ou ailleurs, je représente mon entreprise. Et on peut à la fois me demander des conseils, comment faire. Et c'est normal. C'est normal, je représente l'entreprise, je représente les métiers, dans les avantages et les compliments qu'on peut faire à nos métiers, voire parfois les difficultés. Et j'ai toujours à cœur, quand on me parle d'un problème, d'un souci, d'un contact nécessaire, je suis là. Je ne suis pas que DRH, je suis AFNOR et je suis le DRH du groupe AFNOR. Et ça, c'est très très bien. Les DRH qui ne l'ont pas compris, c'est qu'ils ne vivent pas avec leur temps. Il faut aimer son entreprise, aimer ses produits. Qu'on soit DRH, qu'on soit directeur financier, qu'on soit à l'informatique, peu importe. On doit aimer son métier.
C'est pas toujours facile d'aimer son entreprise parce qu'il y a des entreprises qui sont dures vis-à-vis des collaborateurs et vis-à-vis de la place du collaborateur.
C'est vrai qu'on peut avoir des entreprises qui sont plus difficiles que d'autres, liées notamment au métier que l'on fait. Moi, d'une part, j'ai toujours trouvé qu'il n'y avait pas de sous-métier, il n'y avait que des sautes gens. J'ai vu ce qu'était un métier difficile quand j'ai accompagné des abattoirs de volailles. Au départ, la première chose que je me suis dite en arrivant dans cet endroit, je me suis dit « mon cœur va saigner pour les volailles, pour les lapins, etc. » Mais ce n'était pas le cas. J'ai trouvé des personnes courageuses qui travaillaient. Parfois, c'est plus facile de vivre des aides, hein. Parce que finalement, entre trouver des places pour garder les enfants, avec gagner le SMIC avec des horaires pas faciles, mais moi je me suis reconnue dans ces personnes, dans cette fierté du corps ouvrier. Je trouve d'ailleurs en France, on met jamais assez en valeur les ouvriers et les employés. Ça, c'est un point fondamental. Il y a des entreprises qui sont plus dures que d'autres. C'est nous aussi, en tant que DRH, à faire bouger les choses. Et c'est pour ça que parfois, même quand le milieu de l'entreprise est difficile, mais travailler, contribuer, c'est important, que ce soit le ménage, que ce soit effectivement même la restauration. Moi, j'ai appris, en tout cas, c'est dans ma façon d'être, je suis pareil avec les uns et les autres. Chaque personne a, pour moi, autant de nécessité d'être estimée. Je estime autant la femme de ménage parce que grâce à elle, en fait, j'ai un bureau propre, je peux bien travailler. Je crois que souvent, les personnes ont une vision négative du métier qu'elles font. Et si on a un travail difficile, c'est encore d'autant plus important d'avoir son pilier personnel et son pilier social. On a des personnes qui font des travaux difficiles et qui en même temps s'occupent d'associations sportives, qui font du foot avec les enfants, qui aident des personnes âgées. On a des personnes chez nous qui aident des cancéreux. Et je trouve ça fantastique. La vie ne se résume pas au travail. Parfois, on peut trouver que le travail est un moyen de gagner son argent, mais en même temps, il faut avoir une richesse qui est extérieure. Et quand on a des personnes riches, eh bien, voilà, le travail est beau et difficile, parfois à l'entreprise, les règles peuvent être strictes, mais quand on fait bien son travail, au moins on a une fierté intérieure de contribuer à quelque chose. Et ça, il faut l'avoir, ça doit être un des moteurs. Et c'est pour ça qu'il faut valoriser le travail. Et moi, j'estime que tous les métiers, même les métiers difficiles, que ce soit dans la distribution et autres, c'est important. Et c'est à nous aussi, en tant que consommateurs, acteurs, d'être polis quand on va dans un magasin. Je ne supporte pas les gens mal polis avec les autres. Et c'est déjà l'estime de soi, c'est la politesse. Et si on travaille en France dans le club des incivilités, les incivilités, c'est aussi vis-à-vis de nos salariés. Et je fonde beaucoup d'espoir sur toutes les actions que nous menons dans les entreprises. Il y a énormément de choses. C'est comme dans le 93, on est en Seine-Saint-Denis, un département qui est difficile, 1,2 million de personnes. Eh bien, je n'ai jamais vu autant de mouvements d'entreprises, d'associations mobilisées. Nous sommes un beau département. Et je n'aime pas quand des journalistes font un point focus sur les problèmes des banlieues, la drogue, etc. Il n'y a pas que ça. Et hier encore, on était à Entreprendre, on voit toutes les actions. J'aimais bien parce qu'il y a le cofondateur d'Atelier des Chefs qui a dit une chose très claire. Il a dit « on n'a jamais vu d'aussi bons businessmen. Le problème, ils se sont trompés de produit. » C'est à nous de leur apprendre le produit et c'est à nous à les prendre dans l'entreprise. L'association Jeunesse et Entreprise et d'autres font des choses fantastiques. Il faut qu'on prenne les jeunes au plus tôt et c'est à nous de faire des actions. On reçoit des jeunes, on fait des rallyes. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans ce département. Et c'est fantastique d'être ici. On est vraiment un laboratoire.